Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Colaviv Toulouse.
Bonjour, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de criminels de guerre. Je vais vous parler de Heinrich Himmler. Heinrich Himmler est l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, né le 7 octobre 1900 à Munich, et mort par suicide le 23 mai 1945 à Lunebourg. Il est Reichsführer SS, le maître absolu de la SS, chef de toutes les polices allemandes, dont la Gestapo, et à partir de 1943, ministre de l'Intérieur du Reich, et commandant de l'armée de réserve. Point. Criminel de guerre, il est qualifié par certains auteurs allemands de meurtrier du siècle. Himmler, avec l'aide de Heinrich, son adjoint direct de 1931 à juin 1942, porte la responsabilité la plus lourde dans la liquidation de l'opposition allemande et dans le régime de terreur qui a régné dans les pays occupés. Les camps de concentration et d'extermination dépendent directement de son autorité et il a eu la charge de mettre en œuvre la Shoah. En fuite après la capitulation allemande, il est arrêté par les troupes britanniques mais parvient à se suicider à l'aide d'une capsule de cyanure au moment même où son identité est découverte, échappant ainsi à la justice. Heinrich Himmler est le deuxième fils de Joseph Gebhard Himmler, professeur au lycée de Munich. La famille est issue de la moyenne bourgeoisie catholique bavaroise, et le père est un homme cultivé, nationaliste et conservateur, mais sans être antisémite. Himmler effectue une scolarité dans un établissement de Landshut, puis à Munich, là où son père est enseignant. C'est un élève modèle. Petit, peu sportif et myope, ses fréquentes absences scolaires sont la marque d'une santé fragile. De 1911 à 1924, il tient un journal intime et il y transparaît le portrait d'un jeune homme bien intégré à son milieu et à sa société, capable de gentillesse et de générosité. En août 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale, Himmler souhaite s'engager dans la Reichsmarine, où il n'est pas accepté à cause de sa myopie et surtout de son jeune âge. Le jeune Himmler est frustré de ne pouvoir rejoindre une école d'officiers. Grâce à l'intervention de son père, il obtient une dispense d'âge en juin 1917 et il est incorporé au 2e régiment d'infanterie bavarois. Après la guerre, il étudie l'agronomie au lycée technique agricole de Munich. Il s'inscrit également à une ligue de jeunes à vocation pan-germaniste. Lors d'une conférence en novembre 21, il voit pour les Allemands, rameaux du peuple germanique, de larges perspectives d'expansion vers les territoires orientaux, ce qui apportera un renouveau pour la colonisation et le retour à la terre. Ce retour à la terre étant un moyen de singularisation du paysan aryen par rapport aux juifs urbains et décadents. Il se marie le 3 juillet 1928, de cette union naît une fille. En 1928, le couple investit la dot de sa femme dans un élevage de poules, qui fait faillite en 1933. Mais ce couple se sépare en 1940 sans divorcer, et lui-même entretient une relation avec une de ses secrétaires avec qui il fera deux enfants. Pour la philosophe Elisabeth de Fontenay, qui se fonde sur la correspondance de Himmler publiée en 2014, la personnalité de Himmler qui transparaît à travers cette correspondance sirupeuse, tellement dépourvue d'intimité qu'elle en paraît insincère. Elle est celle d'un petit bourgeois falot, à la sentimentalité médiocre, convenu, un grand criminel et un petit mari. Sa vie durant les débuts des années 20 est assez floue. De 1919 à 1922, il étudie à l'Université technique de Munich. En 1922, Himmler est diplômé d'ingénieur agronome. Depuis 1918-1919, il entretient une amitié avec son ancien chef de corps franc, le capitaine nationaliste Ernest Röhm, qui le convertit à ses idées. Himmler adhère au NSDAP, qui est le parti nazi. Himmler continue de fréquenter ses anciennes connaissances d'après-guerre au sein des Freikorps, c'est-à-dire des corps francs. et il rejoint les SA, amorçant ainsi sa lente ascension dans l'appareil du parti. En 1925, afin de disposer d'une unité disciplinée et totalement dévouée, Hitler fonde les Schutzstaffel, les SS, dont la traduction est l'escadron de protection, qui constitue sa garde rapprochée. Ainsi, Himmler, patient, continue à tenir des rôles secondaires au sein du parti. Il est nommé le 6 janvier 1929 Reichsführer SS. À cette date, malgré son titre impressionnant, il ne dirige que 280 hommes avec lesquels il défile devant les dignitaires du parti. Mais le SS, le Führer, lui ordonne de faire de la SS un corps d'élite. Longtemps considéré par les hauts dignitaires du parti comme un brave petit homme, ayant un bon cœur mais probablement inconstant, Heinrich Himmler commence à dévoiler sa véritable nature. Au printemps 1931, il rencontre Reinhard Heydrich, tout juste limogé de la Reichsmarine. La confiance est immédiate et le Reichsführer SS lui propose d'entrer dans la SS et compte tenu de son expérience dans les services de renseignement de la marine à Kiel, il lui demande de créer un service de renseignement interne à la SS, dont les initiales sont le SD. En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. À ce moment-là, la SS de Himmler compte 52 000 membres. Mais depuis les années 30, Himmler exige des postulants de prouver leur appartenance à la race aryenne. Et écoutez bien, chers amis, durant l'automne 1933, il fait concevoir un nouvel uniforme noir pour ses troupes, créé par Hugo Boss. Vous voyez à quoi ça mène. De mars 1933, Himmler crée le premier camp de concentration à Dachau, où il fait interner les opposants. Hitler, qui a besoin de l'appui de l'armée, des milieux conservateurs et des grands industriels, est conscient des problèmes soulevés par la SA, pour qui la révolution reste à faire. Il répugne à agir contre Rome, un des rares membres du parti qu'il tutoie. Avec la complicité de Heydrich, qui est le véritable inspirateur, Himmler dévoile au Führer un pseudo-putsch de Rome. Plusieurs dizaines de responsables de la SA, dont Rome lui-même, sont assassinés durant la nuit des longs couteaux du 29 au 30 juin 1934. Ayant acquis son indépendance, le Reichsführer SS souhaite mettre la main sur le dernier outil de répression qui lui échappe encore, la Gestapo. En 1934, après un rude conflit avec Göring, celui-ci en cède la direction à Himmler et à Heydrich. Dès 1938, Himmler est favorable à une participation de la SS au conflit qui se prépare. En préparation au conflit avec la Pologne, fournit un supplément de compétences à la SS. Lors de des réunions préparatoires avec les chefs des Einsatzgruppen, le 18 août 1939, Himmler et Heydrich octroient aux commandants de ces unités une large autonomie dans leur mission de lutte contre les résistants et les élites polonaises. De plus, il est prévu que Himmler soit en Pologne sur le terrain et que son action ne rencontre pas d'opposition de la part de la Wehrmacht. Mais les mois suivants, Himmler doit affronter l'opposition non seulement des commandants militaires, mais aussi de Göring, qui insiste sur la nécessité du renforcement du potentiel économique dans le conflit. Ces critiques, du moins celles des militaires, cessent après la défaite de la France, les militaires laissant à Himmler et au parti, donc à la SS, la responsabilité de la lutte ethnique de la Pologne occupée. Nommé en octobre 1939, commissaire du Reich pour le renforcement de la race allemande, Himmler dispose ainsi de pouvoir d'éliminer les influences néfastes qui menacent prétendument le peuple allemand. Chers amis, maintenant je vais vous proposer une pause musicale. Thank you. reprenons le fil de notre histoire. À partir de 1941, la guerre à l'Est fournit à la SS et à son chef l'occasion de prendre davantage d'ascendants dans les opérations militaires. Les deux décrets de Hitler du 17 juillet 1941, fixant définitivement les modalités de l'occupation des territoires occupés en URSS, définissent les compétences des principaux acteurs de la politique d'occupation des territoires. Ainsi, Himmler exerce une tutelle sur la police et ainsi un contrôle sur la politique de maintien de l'ordre. Il fait construire le Konzentrationslager Nasswehler, aujourd'hui appelé le Struthof. Il est situé en Alsace, à 50 km de la frontière franco-allemande de 1939. En 1943, il devient ministre de l'Intérieur. Et à partir de juillet 1944, il étend son domaine de compétence à la justice militaire et par ses circulaires, encourage une justice de plus en plus expéditive et brutale. Au cours de l'automne 1944, sa nomination comme responsable de l'armée de terre de réserve le place à la tête de 2 millions d'hommes de cette armée de suppléance. L'attentat du 20 juillet 1944 vient accroître ses pouvoirs. Sa nomination à la tête de la RSR est complétée par sa compétence à mener une chasse impitoyable aux planqués et aux administratifs dans les services de l'État, de l'ensemble des organisations du parti et de l'armée, afin de reconstituer des divisions des Volksgrenadiers. Envoyé sur le front de l'Ouest, avec les pleins pouvoirs pour constituer un front homogène, il met un terme au processus de désintégration du front. En janvier 1945, alors que le front de la Vistule se désintègre, il est affecté par Hitler à la tête du groupe d'armée Vistule. Mais Himmler, pour essayer d'arrêter l'armée rouge, lance des offensives qui sont toutes vouées à l'échec. Et petit à petit, il semble prendre progressivement conscience de ses lacunes, c'est ce que rapportent ses officiers. Durant l'hiver 1944-1945, Himmler, comme beaucoup de dignitaires nazis, sait que l'Allemagne a perdu la guerre. Mais il continue à sacrifier des milliers d'Allemands en leur martelant que le Reich peut encore être victorieux. Ses conseillers lui proposent de destituer Hitler, ce qu'il refuse de faire. En revanche, afin de donner une seconde chance au Parti National Socialiste durant l'après-guerre, il décide de contacter les Anglais et les Américains par le biais du comte Folke Bernadotte, qui est le vice-président de la Croix-Rouge suédoise. Et les deux hommes se rencontrent pour la première fois près de Berlin en février 1945. Bernadotte prend en note le projet de pacification prévu entre le Reich et les Alliés et proposé par Himmler. Le Reichsführer SS stipule que l'Allemagne se soumettrait au Royaume-Uni et aux États-Unis à condition qu'ils puissent poursuivre la résistance contre le bolchevisme. Les Suédois demandent à Kersten, qui est un adjoint de Himmler, d'intervenir pour éviter le sabotage des camps de concentration comme le voulait Hitler. Le 12 mars 1945, après de longues négociations, Himmler assure qu'on ne sabotera pas les camps de concentration. Un membre du Congrès juif mondial, Norbert Mazur, est dépêché sur place et obtient la garantie que Himmler et ses SS ne molesteront plus aucun juif. Le 28 avril 1945, Adolf Hitler est mis au courant des trahisons de Himmler. L'ancien Reichsführer SS est déchu de ses fonctions. Après la mort de Hitler, un nouveau et éphémère gouvernement se forme sous la houlette de Dönitz. Tentant de proposer ses services, Himmler est refoulé. Le maréchal Keitel capitule le 8 mai 1945 face aux Alliés. Commence alors pour Himmler une véritable chasse à l'homme. Refoulé par le nouveau gouvernement, officiellement démis de l'ensemble de ses fonctions, le 6 mai 1945, il tente de négocier, mais allant d'échec en échec, il se retrouve isolé au début du mois de mai, sans avoir préparé sa fuite autrement qu'avec de faux papiers militaires et un déguisement de soldat débandé. Pourchassé par les Alliés, Himmler erre plusieurs jours près de Flossenbürg, près de la frontière danoise. Son projet est de fuir soit en Bavière, soit en Autriche, où il pourrait se cacher. Rasé et déguisé en sergent-major de la Geheimfeldpolizei, Il porte un bandeau sur l'œil gauche, un uniforme déchiré et de faux papiers au nom de Heinrich Inzinger. Mais ayant refusé d'abandonner ses lunettes, il demeure reconnaissable. L'unité qu'il a rejointe est arrêtée près de Hambourg. Le 22 mai 1945, le fait que le pseudo Inzinger présente des papiers neufs et tous les documents nécessaires en pleine période de débâcle attire l'attention des policiers professionnels de l'armée britannique. Et dans les locaux de l'armée britannique, on a fouillé Himmler. On a fouillé ses vêtements, on l'a mis nu, on a regardé partout, même entre ses doigts de pied, parce qu'on recherchait pour voir s'il n'avait pas de capsule de poison. On avait bien examiné sa bouche, mais un des médecins a voulu renouveler cet examen. Il lui a donc demandé d'ouvrir la bouche. Il s'est approché de Himmler qui avait la bouche ouverte. Le docteur a essayé de mettre deux doigts dans la bouche pour mieux regarder. Alors Himmler a retiré la tête d'un seul coup, a mordu le docteur au doigt et a cassé la capsule de poison qu'il gardait depuis des heures dans la bouche. Le docteur a dit « il l'a fait, il est mort ». Et on a mis une couverture sur lui et on l'a laissé là. Comme certains chefs nazis, Himmler se suicide le jour même de l'arrestation des membres du gouvernement de Flossenbürg. Ses derniers mots ont été « Ich bin Heinrich Himmler ». Je suis Heinrich Himmler. Le lendemain matin, le cadavre est enterré secrètement dans une tombe anonyme quelque part dans la lande du Lunenburg. Les alliés ne voulant pas qu'elle devienne un lieu de pèlerinage nazi. Chers amis assis, se termine l'histoire de ce sinistre personnage, histoire que j'ai survolée, bien sûr, il y a de nombreux détails que je n'ai pas pu vous donner. Mais cela vous donne une approche quand même de ces dignitaires nazis qui ont fait tant de mal au peuple juif. Je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir.
Aura Vive, la radio du web, non-stop.